L de géant, L de géant, L de géant, L de géant. Bienvenue sur L de géant, le podcast de l'école des lettres. Aujourd'hui, L de géant reçoit Mario de Muraille, autrice phare de l'école des loisirs, à l'occasion notamment de la parution de la saison 7 de sa série Sauveur et Fils, coécrite en l'occurrence avec sa fille Constance Robert Muraille. Bonjour Mario de Muraille.
Bonjour Ingrid, bonjour à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent.
Pour celles et ceux qui ne connaissent pas ou qui auraient besoin d'une petite mise à jour, chaque nouvelle saison de Sauveur et Fils s'ouvre sur un petit récapitulatif, comme dans les séries télévisées en fait, surmonté du célèbre adverbe « précédemment ». Dans cette saison 7, donc, vous annoncez, et je vous cite, « Depuis 6 saisons, nous suivons la vie du 12 rue des Murlins. Cette maison avec jardin, située à Orléans, comporte deux territoires qui devraient rester distincts. » Côté jardin, et là je résume, Sauveur Saint-Yves, que vous présentez Mario de Muraille comme un solide gaillard de 1m90, la quarantaine, originaire de Martinique, veuf et père d'un adolescent Lazare. Sauveur donc a recomposé une famille avec Louise Rocheteau, journaliste pigiste à la République du Centre et mère de deux adolescents, Alice et Paul. Vivent avec eux Gabin, un jeune homme, Jovo, un vieil homme, Grégoire, un orphelin de 4 ans, Miou, un chat adopté, et puis des hamsters et des cochons d'Inde. Ces cochons d'Inde qui, soit dit en passant, posent sur chacune des couvertures des 7 saisons de Sauveur et Fils. Côté rue maintenant, le cabinet de Sauveur Saint-Yves, psychologue clinicien qui reçoit une partie des maux d'Orléans, eux-mêmes reflets de blessures contemporaines ou atemporelles. Celle-ci traverse des passions et des histoires auxquelles Sauveur, et derrière lui les lectrices et les lecteurs, s'attachent avec intérêt, empathie, sentiment d'identification, agacement, c'est selon. Sauf que, cette fois, Mario de Muraille, vous annoncez que cette saison marque la fin de la série Sauveur et Fils. C'est donc avec une certaine gravité que je vous demande, alors Sauveur, c'est fini ?
C'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'est là un bruit que j'ai laissé courir. Ce qui est fini, c'est un certain nombre de thérapies à l'intérieur. Je voulais qu'à un moment, on ait le sentiment de porte qui se referme. Après, il y en a une qui s'ouvre à la fin, je vous dis pas. Je ne sais pas. Ça va dépendre de l'évolution de la société. Du besoin que je vais avoir du regard de Sauveur. Ce que je sais, c'est que je continue de découper des articles dans la presse, que je me dis, tiens, ça devrait intéresser Sauveur. Constance en fait autant. Ce qui ne finit pas et ne finira pas pour moi, c'est que mon regard s'est modifié et que je me suis incorporée, Sauveur.
Je dois vous avouer, et je ne suis pas la seule dans ce cas, je crois, que si j'ai aimé suivre toutes les aventures du 12 rue des Murlins et m'intéresser à chacun des patients de Sauveur, c'est à Sauveur que je me suis le plus attachée. J'ai remarqué qu'il s'exprime avec une certaine parcimonie, qu'il ne pratique ni sport, ni discipline artistique, et que quand il ne travaille pas, il s'occupe de ses proches. Il souffre même de chutes de tension qui lui causent des vertiges, des étourdissements. Et il tente péniblement dans cette 7e saison de réduire sa consommation de café. Or, s'il noue des relations amicales avec ceux qu'il croise, il n'a pas de super pote à qui se confier. Mais pourquoi Mario de Muraille, ce grand gaillard de 1m90, la quarantaine, qu'on imagine sympa et même pour certaines séduisant, certaines ou certains, n'a-t-il pas d'amis ?
C'est aussi le problème de son fils, Lazare, qui dans la saison 1 lui dit « C'est grave, papa, si j'ai que un ami ». Un ami, mais c'est beaucoup ça, lui répond son père. Alors tout dépend de ce qu'on appelle un ami, bien évidemment. Il faut quand même voir que Sauveur, c'est un déraciné, c'est un exilé. Et c'est aussi quelqu'un qui est entre deux cultures. C'est un noir qui a été adopté par un couple de blancs. Il était ce qu'on appelle aux Antilles un bounty, c'est-à-dire noir à l'extérieur, blanc à l'intérieur. Il se voyait comme blanc, mais les autres le voyaient comme noir. Il a eu des difficultés, effectivement, à s'insérer dans la société des enfants et des adolescents. On s'aperçoit dans les saisons suivantes qu'en dépit de sa coolitude apparente, et ça surprend beaucoup Louise, il lui avoue qu'il avait besoin dans les soirées de se désinhiber et donc qu'il a pris l'habitude d'une petite consommation d'alcool. C'est pas quelqu'un qui a, dans le quotidien, beaucoup de facilité. Là où il s'épanouit, c'est dans son cabinet de consultation. Il est, en quelque sorte, ici, dans ce cabinet, l'ami universel. Et je veux qu'il le soit pour aussi tous les lecteurs et les lectrices. Et c'est un peu comme dans les boys bands, vous savez, il ne fallait pas que les garçons se fiancent ou aient des petites copines pour laisser fantasmer les lectrices sur le fait que ça pourrait être elle. Et ben là, le fait qu'il n'ait pas d'amis, ça laisse la place, en fait, à tous ceux qui lisent, à toutes celles. Si on lit bien la saison 6, on s'aperçoit qu'à la fin, il se retrouve dans une chambre d'hôpital avec une jeune fille qui entend des voix, dont il n'a pas envie de dire qu'elle est schizophrène parce que les étiquettes, c'est pour les pots de confiture. Elle va passer Noël entre ses quatre murs. Il a amené du shampoing, elle n'a pas le droit à autre chose étant donné les médications, des verres en plastique, et il lève son verre, les derniers mots de la saison 6. C'est le toast qu'il porte à l'amitié.
Il est de plus en plus question de transidentité chez les jeunes. L'école a enfin réagi en diffusant une circulaire pour une meilleure prise en compte des questions relatives à l'identité de genre en milieu scolaire. Elle est parue au bulletin officiel en septembre 2021. À cette date, Marion Muraille, vous étiez déjà penchée sur le sujet depuis plusieurs années puisqu'il en est question dès les premières saisons de Sauveur. Alors comment le personnage d'Ella Elliott est-il né ? Il semble aux antipodes de ce que certains dénoncent aujourd'hui comme la résultante d'une mode sur les réseaux sociaux.
Alors, je continue à me documenter, regarde ce que je t'ai amené. Changement de genre, comment faire face aux demandes. Et là, c'est plus du tout ce que je regardais quand je lisais Le Monde en 2014. Ça ne se passe pas aux États-Unis ou aux Pays-Bas. Ce n'est pas en page intérieure société. C'est la une d'un journal assez conservateur du point de vue sociétal, qui est le journal La Croix, ce qui prouve bien la montée d'un phénomène. Généralement, les phénomènes, j'essaie de les dépister au départ. Alors, je me suis intéressée à ça pour une raison assez simple, c'est que j'ai jamais très bien su si j'étais garçon ou fille. Es-tu garçon, es-tu fille, es-tu narcisse ou bien jonquille, comme dit le poème de Robert Desnos, et j'ai jamais eu la réponse. Je me suis parfois étonnée moi-même en me disant « Mais comment ça se fait que dans le fantasme, dans l'imaginaire, je m'incarne si facilement au jeu masculin ? Pourquoi je l'ai fait ça depuis petite ? En fait, quand je jouais, j'étais un pirate, j'étais un garçon. Alors maintenant, on dirait qu'il y avait chez moi un trouble dans le genre ou une dysphorie de genre, toutes choses qui ne se disaient pas. Et j'ai grandi avec ça. Et le fait d'entendre tous ces gens témoigner, finalement, ça m'a soulagée d'une certaine façon. Un peu comme on se dirait « Ah, bah oui, c'était ça !» J'ai créé ce personnage d'Ella pour lui faire porter un petit peu qui j'étais. Donc, elle a 12 ans, elle s'invente des histoires où elle est le prince Elliot, et elle fantasme autour de ça. Et Sauveur croit avoir le dernier mot, comme on croit parfois l'avoir en psychothérapie, parce qu'elle a eu, il le découvre, un petit frère qui est né avant elle et qui est mort très petit, et donc qui s'appelait Elliot. Et comme si, en fait, elle était la réincarnation de cet enfant perdu et de ce désir de garçon qu'auraient eu les parents. Sauf que pas. J'avais rien prévu de l'évolution de ce personnage. Je lui avais donné des choses qui m'appartenaient. Ce que je n'avais pas prévu, c'est qu'elle allait aller plus loin. Et ça désoriente Sauveur au fur et à mesure. En fait, il lui présente la solution qui a été la mienne. De créer. Elle est d'accord. Elle va devenir écrivain. Elle a un modèle, George Sand. Elle n'a pas de problème avec ça. Mais ça ne change pas le reste de sa demande, qui est d'être un garçon. Ça, je n'avais pas prévu au départ. Qu'elle me résisterait en quelque sorte. Et je me dis parfois, si j'étais née aujourd'hui, si j'avais eu les possibilités qu'ils ont, qu'elles ont, qu'est-ce que j'aurais fait ? Eh bien, j'en sais rien. Moi, je suis contente, d'une certaine façon, d'avoir gardé mon sexe, parce que ça m'a permis des expériences fondamentales, comme porter un enfant. J'ai fait 3 fois. Mais toujours avec cette interrogation, Narcisse ou jonquille, le personnage qui était le plus près de moi, c'est Barthélémy dans Hautboy. C'est l'homosexuel, le garçon homosexuel. Jamais ça ne s'est présenté sous cette forme relativement radicale de la transformation physique. J'ai joué le travesti. Mais comme Georges, je me suis habillée en garçon. De temps en temps, j'essayais faire descendre un petit peu ma voix, elle le faisait aussi, hein, descendre sa voix un petit peu dans les graves pour qu'on se trompe davantage. Mais jamais elle a revendiqué d'être une autre personne d'un autre sexe. Elle était très contente d'avoir des enfants, des petits-enfants, hein, des amants. Si je devais me définir, moi je dirais plutôt non-binaire, puisque maintenant on a toutes sortes de choix. Surtout, j'ai l'impression qu'il y a des moments de vie, des périodes de vie, où on peut être tenté par une solution plutôt qu'une autre. J'ai un peu les préventions de Sauveur sur la radicalité de certains choix sur lesquels on ne peut pas revenir. Et certains vont peut-être trouver qu'ils se sont engagés très tôt, très vite, et qu'ils se sont privés, finalement, peut-être aussi d'autres possibles. C'est un petit peu le dernier avis qui a été donné par l'Académie de médecine, quand même, d'une prudence par rapport aux enfants et aux adolescents. On peut être mal à cet âge-là, et mal dans son corps, et mal dans son sexe, sans que ce soit quelque chose de définitif. Ça peut être un passage. Peut-être ne pas se ruer sur la solution proposée, un peu trop avidement de l'autre côté par une société libérale qui fait du fric avec tout, y compris avec des cliniques qui proposent tout, et aider la personne à prendre son temps et à identifier, si possible, s'il n'y a pas autre chose dans ce mal-être. Je suis contente de ce personnage qui me permet de vivre ce que j'ai pas vécu. Elle le fait à ma place, et ça, c'est le privilège de ceux qui créent des personnages, et puis c'est le privilège de tout lecteur qui peut s'identifier à un personnage sans pour autant suivre sa route.
Finalement, le changement d'identité, le passage dans un corps et dans un autre, c'est un exercice mental que font assez régulièrement les écrivains, en tout cas.
Et les lecteurs et les lectrices, et cette génération que je vois actuellement sur les réseaux sociaux qui s'intitule les shifters et les shifteuses, qui font exactement ce que je faisais au même âge, c'est-à-dire qui quittent leur corps et qui suivent des scénarios dans lesquels ils investissent un autre corps. Et ils s'entraident entre eux pour vivre dans ces univers parallèles. On arrive comme ça à des états qui sont proches de l'auto-hypnose, qui sont des états seconds. C'est l'autre solution que j'avais trouvée, il y avait la possibilité donc d'écrire en étant au jeu masculin, mais il y avait aussi la possibilité de fantasmer en se mettant dans un tel état que réellement on a le sentiment qu'on a quitté son corps. Je ne sais pas que j'ai vécu une enfance et une adolescence confinée, mais quand même assez enfermée. On sortait peu, c'était Paris, c'était l'école et la maison. Et le meilleur moyen de repousser les murs, ben c'est effectivement l'imaginaire. Mais ce que j'ai vu, parce que voilà, je suis beaucoup avec Georges Sand, je l'appelle Georges parce que là, c'est ma copine en ce moment. Je vis beaucoup avec elle en ce moment. Elle a écrit sa propre vie. Ça s'appelle d'ailleurs non pas « Ma vie », mais « Histoire de ma vie », ce qui montre bien le petit décalage entre le fait qu'on raconte toute la vérité, mais pas forcément. C'est une histoire. Et dans cette histoire, elle se montre enfant à la lisière de l'adolescence, 12-13 ans, inventant une religion, inventant un monde, un dieu auquel elle faisait même des sacrifices, et ayant un air vis-à-vis des autres, un air, elle dit, de bêtise, un air hébété. Eh bien, je me suis dit, mais Georges, à 100% avec toi.
Enfin, la saison 6 est là à achever sa transformation, elle est Elliot, et vous précisiez lors d'une conférence qui s'est tenue à l'École des loisirs le 13 mars, que vous aviez rectifié une mention que vous aviez faite au début de la saison 7 concernant ce personnage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez rectifié cette mention ?
C'était à la suite d'une demande. Le personnage est présenté comme étant Ella Elliott en saison 7. Et c'est une jeune fille qui est en master d'édition, qui est venue voir mon éditrice et qui lui a dit que non, ça n'était plus possible de lui mettre son dead name, donc son nom de naissance, qu'il fallait l'enlever. J'ai aussi enlevé une partie de la phrase qui mentionnait les préventions du psy. Je me suis dit, on va braquer personne. Je suis à l'écoute de tout ce qui se dit et de ce que me renvoient les lectrices et les lecteurs. Puis assez régulièrement, de toute façon, je fais relire mes textes, soit par des enfants, soit par des jeunes gens, soit par des personnes qui m'ont donné du matériau et je veux qui vérifie que je ne les ai pas trahis. Oui, on se gargarise actuellement avec les sensitivity readers. Je pense que Monsieur Zola en avait. Je veux dire, on n'invente pas les choses, on met des noms anglais dessus. J'ai toujours eu des gens qui étaient des ressources pour moi. J'ai pu rester, par exemple, une journée dans une école maternelle. Je peux m'asseoir au fond d'une classe de CE2. Les gens sont très, très sympathiques. Le planning familial, pareil, m'a monté mon dossier pour que je demande, soi-disant, une interruption de grossesse. Et on a fait un jeu de rôle, comme si j'avais 17 ans. J'ai j'ai pu rencontrer la médecin hygiéniste. Je fais toutes les démarches de mes personnages et j'essaie réellement de comprendre ce qu'ils vivent, de voir en quoi ça me concerne. C'est quand même très important pour moi aussi de savoir quel point de moi-même ça touche. Et c'est à ce moment-là que je vais pouvoir écrire. Et au moment où je suis prête à écrire et où j'ai déjà produit quelque chose, je me fais relire.
Et à propos des réseaux sociaux, Elliot donc, qui est contraint de les surutiliser pour mettre en scène son personnage public, témoigne d'une certaine forme de lassitude vis-à-vis de leur exigence de rendement notamment. Il semble souffrir d'une forme de pression qu'exercent les réseaux sociaux sur lui, en tout cas sur son quotidien. Est-ce que cela marque le début d'un regard critique sur la mise en scène de soi en ligne ?
Ça fait très longtemps que je me dis que cette chose-là est assez fatigante. On est passé du souci de soi à maintenant presque la fatigue de soi. J'avais observé une très jeune adolescente qui me disait que ça lui prenait beaucoup de temps le matin de se préparer pour le cas où elle serait photographiée au collège et mise sur les réseaux sociaux. Comme si elle était harcelée à 13 ans. Ça m'a donné à réfléchir effectivement sur cette pression d'une certaine perfection physique notamment. Il ne se supporte plus au naturel. Il y a même, je crois maintenant, une application où on doit se prendre en photo tel qu'on est. Voilà, à un moment précis, tac, tu te prends, quelle que soit ta tronche, ton habit, l'endroit où tu es, voilà, pour t'habituer au fait que tu es bien toi, pas retraficoter et que tu acceptes et que tu assumes, puisque tu montres cette image de toi non retravaillée, pour arriver à l'acceptation de soi. Avant de critiquer quoi que ce soit, je vais voir. Qu'est-ce qu'on dit pas sur les réseaux, sur Instagram, sur ça. J'adore Instagram. On a fait une petite communauté très sympathique. J'ai des retours avec des gens, j'ai l'impression de les connaître progressivement. Je regarde aussi ce que font les jeunes auteurs. Ça me permet de me tenir au courant de plein de choses. Et puis, je m'aperçois que toute ma vie est Instagrammable. Ça a complètement aiguisé mon regard. Moi qui n'avais jamais d'appareil photo, maintenant, je l'ai dans ma poche tout le temps. C'est « Oh, ça, oh, tiens, ça !» Ça multiplie les angles comiques dans mon existence, et c'est ce que je cherche assez systématiquement. Puis aussi les angles un peu esthétiques. Je trouve que c'est une éducation du regard. Parce qu'il est plutôt tourné vers les autres que tourné vers moi. Je passe pas mon temps à me photographier, moi. Alors après, voilà, TikTok. J'en sais rien, en fait. J'ai d'abord envoyé ma fille, je lui ai dit, bon, va voir pour moi. Puis je vais y aller, je vais voir. Alors je sais tout ce qu'on dit. Sur TikTok, je sais, les histoires d'addiction, l'espionnage chinois. Ce que j'évite de dire, c'est la formule « les jeunes ceci, les jeunes cela », je dis « nous ». Parce que se déversent sur nous des innovations, des nouveautés qui nous enchantent, qui nous enthousiasment, qui nous séduisent, qui nous fascinent, puis qui nous fatiguent. Actuellement, je vois que la surstimulation fait que nous avons des cerveaux fatigués, que j'ai des difficultés à lire longuement, que je suis là toujours avec un petit œil sur mon téléphone au cas où il se passerait quelque chose quand même à côté de mon bouquin. Et bon, la lecture, c'est difficile, fois 2, fois 16. J'ai un peu appris la lecture rapide, mais que je suis en train de perdre, sûrement c'est la lecture profonde, la lecture continue, la lecture soutenue. Mais je m'aperçois que mon cerveau fatigue et surtout qu'elle a besoin d'être réinitialisée.
Alors cette saison est également marquée par l'entrée en scène d'une jeune prof, une prof de collège, Ariane, qui est moralement fragilisée et qui se pose des questions sur l'exercice de son métier et de son avenir dans la profession. Dans le podcast Millefeuille, réalisé pour l'École des loisirs par Brune Bottero, vous glissez que les enseignants sont en difficulté. Ariane est-elle emblématique d'un mal assez répandu et trop souvent passé sous silence, qui serait cette souffrance enseignante ?
En fait, j'ai travaillé avec Constance, une trentenaire, et donc elle a interrogé autour d'elle. Et donc elle s'est fait l'écho des trentenaires. Ce sont des gens, là, souvent hyper qualifiés, hein, puisqu'elle est normalienne agrégée, donc autour d'elle, des thésards, des normaliens, à qui on demande effectivement d'être des enseignants, et qui sont en souffrance. Certains ont jeté l'éponge, d'ailleurs ma fille aussi. Ils n'ont pas envie d'entrer dans ce système. Ils sont fatigués des évaluations, de la pression sociale, du regard que ça implique sur les enfants, sur les adolescents. Ils n'ont pas envie de vivre ça. Je reviens de Saint-Nazaire, je suis allée à Pornic, à Paimbœuf, à Irbignac, à Guérande. J'ai rencontré, comme je le fais souvent, mais là j'ai fait toute une tournée. Ça a duré une semaine, donc j'ai eu le temps de faire une plongée. dans les collèges, donc de la 6e à la 3e. Bah, alors évidemment, j'ai forcément une vision un petit peu faussée, parce que là, ce sont des enseignants qui sont engagés, qui sont motivés, qui avaient un projet, qui se sont fédérés, qui sont donc pas solitaires. C'est généralement un tandem professeur de français, prof doc, qui me reçoit. Ça avait été bien fait. Les gamins, ils avaient lu, ils avaient créé un cluedo, un jeu des sept familles, prévu des scénettes. Ils avaient des questions intéressantes. Ils étaient vraiment présents, tellement disponibles. Après, moi, je traîne dans le bahut et je regarde des choses. Je vois que le corps est mieux traité qu'autrefois. Il y a du travail de fait. Des tables de propositions de lecture dans le CDI sur le harcèlement, le cyberharcèlement, on me dit oui, on travaille là-dessus. Je m'aperçois que je peux parler de tout, je l'ai toujours fait, mais je n'ai plus ces ricanements, ces rougeurs, ces corps qui se retirent, cette gêne que je ressentais parfois en face. Le mot homosexuel, tu n'as plus... Oh ! Le mot, il fallait pas. Mais c'est terminé tout ça. Tu peux parler librement, de lancer des expressions, dire... Alors, quand ils font l'amour, etc., t'as personne qui, en face, ils suivent, ils écoutent, il n'y a pas de problème. Donc maintenant, alors, la transidentité, mais c'est leur tasse de thé, quoi. C'est un respect de... Oui, tout ce qu'on prônait, tout ce qu'on leur a dit, qui faisait un peu l'assis, la tolérance, le respect des autres, l'écoute, machin, que des fois, je me disais, ça fait un peu baratin. Eh bien, il n'empêche... C'est rentré. Et l'expression de soi, et l'expression des émotions. Mais c'était beau, certains groupes. Parce que moi, j'y vais à fond. C'est là où je vis le plus fort, hein, dans ces rencontres. Hein. Donc je ris, je pleure. Et en face, il se passe la même chose. Et un tel soulagement, après. Des enfants qui me disent que ça leur fait du bien de pouvoir sentir qu'ils ont le droit d'avoir ces émotions. Et je vois des groupes qui se forment et qui serrent dans leurs bras celui qui a pleuré. Et c'est très beau. Je le dis souvent aux enfants, vous savez, moi j'aurais pas eu les épaules pour être enseignant. C'est trop dur. Physiquement, c'est très pénible, c'est très dur. En même temps... Quel métier exceptionnel, quelle responsabilité aussi. Mais si vous acceptez que les enfants, les adolescents vous donnent quelque chose en retour, c'est comme ça que vous allez tenir. Vous êtes là aussi pour prendre. Et eux, en face, ils ont envie de donner. Et là, je suis repartie de cette semaine regonflée. Parfois, je leur dis, hein, vous savez, un écrivain pour la jeunesse, c'est quelqu'un qui aime le temps présent et qui croit en l'avenir. C'est la deuxième proposition qui me pose un problème, actuellement. Et bien là, je suis repartie en me disant, ils m'aident à croire. Ça a toujours été ce qu'ils ont fait pour moi, ils m'aidaient à ne pas désespérer. Et bien maintenant, ils m'aident à croire en l'avenir. Ça peut paraître curieux parce qu'eux-mêmes ont des interrogations, eux-mêmes sont angoissés, eux-mêmes sont parfois en dépression. Mais quelle liberté aussi. Quelle écoute. On va dire que les enseignants y font le taf.
Vous avez d'ailleurs un personnage de professeur récurrent dans les différentes saisons de Sauveur. Mmh. Ce personnage, dans la saison 7, sans trop en révéler, elle est un petit peu mise en difficulté, donc c'est une enseignante qui a de la bouteille, comme on dit, elle est un petit peu mise en difficulté par une jeune collègue qui lui dit qu'elle ne parle pas assez d'écologie. C'est un ressort comique parce qu'elle décide de s'y mettre et elle s'y met avec certaines maladresses parce qu'en gros, au départ, elle fait pleurer tous ses élèves, ses jeunes petits élèves en leur expliquant que le pauvre ours polaire sur la banquise qui est en train de fondre, bah, il va mourir. Et donc, elle se dit, mais comment est-ce qu'on peut parler d'écologie à des jeunes enfants ou moins jeunes sans les désespérer? Et ça, Marine Muraille, c'est quand même une grande question.
Oui, on parle actuellement, bah, c'est tout nouveau, mais c'est rentré dans le dictionnaire, on parle d'éco-anxiété, et c'est vrai, ils en ont assez, qu'on leur fasse porter en fait un poids qui n'est pas proportionné à leurs épaules. On ne peut pas leur faire porter le poids du monde dont nous sommes responsables, et éventuellement coupables. Ils sont parfois surinformés ou mal informés, et je pense que parfois, ils ferment les écoutilles. Je pense à autre chose actuellement. Et je m'aperçois dans les groupes comme ça que quand on recommence un petit peu sur ce terrain, allez les filles, bravo les filles, c'est nous les filles, je vois le regard des garçons qui part dans le bleu. Ils sont aussi fatigués de ça. Attention là aussi au fait que on va pas non plus les piétiner pour nous faire exister. Il faut en fait, c'est nous, c'est toujours nous, c'est pas les filles et les garçons, c'est nous, nous, société. Et donc, nous devons grandir ensemble dans un encouragement mutuel à être notamment créatif, à prendre notre place, à pas hésiter à s'intéresser aux sciences, mais qu'on soit fille ou garçon. Là aussi, je me dis, oh, attention à rééquilibrer un tout petit peu. Je veille toujours à une certaine parité dans les interventions de parole. Mais attention à eux, attention aux garçons. L'auteur du roman Renversante s'en aperçoit dans ses interventions. Il y a une contestation maintenant de ce qu'on perçoit comme étant agressif du côté féminin. Tout ça, c'est une question de nuance, d'attention, de dosage, puis de réflexion en permanence. Je leur dis, un intellectuel, c'est pas quelqu'un qui sait, hein, c'est quelqu'un qui cherche.
Dans le roman, vous proposez des choix de vie, des sortes de solutions, des options. Par exemple, le personnage de Lazare, oui, qui prend une option, lui, face à l'éco-anxiété, ou le personnage de Blandine, ce ne sont pas les mêmes.
Non.
D'ailleurs, le personnage de Lazare agace un petit peu son père. On ne peut pas dire que Sauveur soit un grand éco-anxieux, lui, pour le coup.
Non, pas vraiment. Et d'ailleurs, il se fait reprendre par son fils, effectivement. Fermer la lumière, fermer les robinets, t'as pas besoin de manger de viande tous les jours, etc. Et donc, le garçon fait ses sessions, effectivement, au repas. Et il encourage le plus jeune, d'ailleurs, qui est dans cette classe avec la maîtresse qui diffuse de l'éco-anxiété. Et le petit garçon est très soulagé de pouvoir prendre modèle sur cet adolescent et trouver des gestes à faire. Pendant tout un temps, le hasard, on se dit qu'il va devenir comme papa, que ça va être un psychologue. D'ailleurs, il s'est fait un petit carrier où il réfléchit sur la psychologie des êtres humains, etc. Et finalement, il fait savoir à son père que ce qu'il fait, c'est bien gentil, mais c'est pas suffisant. Et que lui va s'engager autrement. Et peut-être en politique.
Autre nouveauté dans cette saison, Marion Murray, Sauveur est invité à remplacer une psychologue absente dans un duo qui intervient auprès d'un groupe d'hommes violents en milieu pénitentiaire. Quelle était votre idée en mettant en scène les mots et les comportements de ces hommes ?
C'est juste que c'est un phénomène social, que j'ai écouté des podcasts, que j'ai lu des articles et que je me dis ça, c'est un sujet pour Sauveur. Alors il découvre autre chose, Sauveur, il découvre ce que c'est qu'un tandem de psychologues et que c'est pas forcément lui qui a la main, donc avec une femme. C'est aussi un apprentissage pour lui. C'est important pour moi que tous mes personnages soient en apprentissage. Et donc Sauveur va pouvoir se poser quelques questions, effectivement, sur son acceptation des interventions de l'autre. Ça va pas se passer très bien. C'est une manière de regarder à chaque fois l'autre côté du miroir. Il y a la victime et il y a le bourreau. Et je pense que si tu veux bien comprendre le phénomène, il faut regarder des deux côtés. Et s'interroger à « mais pourquoi lui, il fait ça ?» Voilà. Ça m'a toujours fasciné, en fait. C'est la fascination du mal, sans doute. Hein. C'est la question que je peux me poser aussi à l'hôtel du pourquoi pas. Pourquoi le psychopathe ? Pourquoi le mal absolu ? Pourquoi ? Et quelle est la possibilité en nous de basculer du côté du mal ? C'est cette violence qui n'a pas l'air d'être contrôlable. Je me demande pourquoi. Le mal, c'est quelque chose qui est vertigineux pour moi.
Mais quand même, là, le mal est pluriel. Ces hommes violents, ils sont différents. Alors, oui, s'ils partagent certaines réactions, s'ils justifient, disons, s'ils partagent certains arguments de justification, on sent bien qu'il y a des dissensions entre eux, oui, et qu'ils n'ont pas tous les mêmes réflexes.
Absolument.
Et les mêmes...
Absolument. Moi, ça m'importe aussi de montrer tous les chemins. Donc, il y a ceux qui sont potentiellement amendables, ceux qui vont récidiver. Et le pire, finalement, c'est ce personne qui manipule, qui va faire exploser le groupe, qui est réellement un pervers. Donc, c'est pas forcément la brute épaisse. Il y a des gens encore plus dangereux, encore plus subtils, qui font encore plus de mal.
Ce qui me frappe, moi, souvent, en vous lisant, c'est qu'au-delà des dialogues et de la narration, ce sont ces petits détails de mise en scène que l'on nomme, par exemple, didascalie, au théâtre et qui donne des indications sur un regard, un ton employé. Comme par exemple cette scène où Sauveur raccroche d'une conversation téléphonique qui lui a fait plaisir et vous précisez quelque chose comme 5 minutes après avoir accroché, il souriait encore. Comment est-ce qu'on nourrit ce genre de détails? Est-ce qu'ils viennent en écrivant une scène parce qu'on est baigné dans un rythme, une atmosphère? Est-ce qu'on peut se chauffer comme on s'entraîne par exemple au stand-up en répétant ses phrases à voix haute, en faisant des dialogues? Est-ce que d'être deux à l'écriture permet un jeu encore plus efficace parce qu'on essaie par exemple de surprendre l'autre ou de le faire rire?
Le faire rire, ça c'est évident. Je l'ai vécu dans des situations très très dures, hein, puisque j'ai écrit pendant 18 mois avec mon frère, qui était atteint de la maladie de Charcot, donc il est devenu progressivement paralysé. Et on essayait de se faire rire réciproquement. Très intentionnellement, je regardais énormément de documentaires animaliers sur Arte, et j'en ai fait une scène cocasse. Et il m'a dit « c'est idiot, mais j'ai ri ». Et il me faisait des scènes drôles, jusqu'au moment où je lui dis « mais comment tu y arrives ?» sous-entendu dans l'état où tu es. Et il m'a répondu « pourquoi pas ?» Donc le dernier tome s'appelle « À l'hôtel » et du « pourquoi pas ?» C'est ma question constamment, voilà. Pourquoi il n'y aurait pas un angle comique? Constamment, j'ai dit à Constance « cherche l'angle comique ». Une fois ou deux, elle a acheté l'éponge, elle m'a dit « j'ai pas trouvé d'angle comique ». Je lui dis « c'est que ça n'est pas drôle et il faut le laisser tel que ». Il n'y a pas d'obligation non plus. Hein. C'est une éducation du regard. Donc je cherche effectivement tout ce qui est drôle dans ce monde tragique. Je suis quelqu'un d'hyper émotif. Je trouve que la condition humaine est très dure. J'ai un sentiment tragique de l'existence. Donc je cherche toutes les raisons d'espérer et toutes les façons de rire.
Mais cet angle comique, vous allez plutôt le glisser dans la narration, c'est-à-dire dans la part du narrateur, et pas forcément dans les dialogues. C'est pas forcément les personnages qui vont raconter des blagues ou qui vont être particulièrement
non,
drôles.
Non, ils peuvent être cocasses assez régulièrement. Blandine a un potentiel comique, hein, voilà. Certains personnages en ont un, parfois leur corps défendant. Ils sont drôles parce que, voilà, ils sont dans une certaine forme de parodie d'eux-mêmes. J'essaie de pas me moquer.
Vous dites ça avec prudence.
Avec tendresse, voilà. Je pense que la moquerie, si elle doit être, elle doit être tendre en même temps. Et puis je parie aussi pas mal sur l'autodérision et que les personnages eux-mêmes sachent avoir une représentation cocasse de la vie.
Vous parliez de tendresse, mais justement, sans révéler le déroulement de cette saison 7, ni se montrer trop conclusif sur la série, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle installe un modèle de famille recomposé très ouvert et très tendre. J'entendais récemment le philosophe Geoffroy de La Gannerie opposer au modèle de la vie en famille un modèle de vie entre amis. Vous tenez, pour votre part, ou tout du moins dans Sauveur, mais dans d'autres aussi, je pense à Hautboy, au modèle de la famille même si peu traditionnelle.
Oui, et ma fille, elle, serait plutôt comme les trentenaires, là, sur la coloc. Se retrouver dans un village, tous avec des modes de vie différents, mais tous ensemble, parce que la valeur dominante, là, c'est l'amitié. C'est une aspiration qu'on a eue autrefois aussi avec les communautés, mais sans aspiration politique. C'est le bonheur d'être avec ceux qu'on aime, et ce ne sera pas ceux de sa famille, ce sont des gens choisis. Mais le petit Grégoire dans l'histoire, dans la saison 7, dit « la famille, c'est des gens qu'on choisit ». Ça bouscule un peu Sauveur, parce qu'il se dit mais alors il est en train de s'installer, là. Et c'est ce que font effectivement des personnes qui décident de s'installer chez lui, c'est parce qu'ils l'ont choisi. Moi, un des modèles les plus anciens dans la littérature qui m'avait énormément touchée, c'était un auteur qui est maintenant de moins en moins lu, qui s'appelle Colette Vivier, et qui écrivait des livres comme « La porte ouverte »,« La maison aux quatre vents », écoutez déjà les titres, ça se passe toujours dans des milieux populaires, où on n'a pas de sous, mais on a toujours une petite place pour la personne qui est toute seule au-dessus, ou pour le vieux monsieur, on va se serrer sur le banc, on va retrouver un petit peu à manger dans les placards, et on a le cœur sur la main et la porte ouverte. Et ça m'avait fait un tel bien de lire ces livres-là, que j'ai lu à voix haute à mes enfants aussi. Cette générosité, cette tendresse, ce milieu populaire, où les paires de claques peuvent partir de temps en temps un peu vite. Ça peut être un peu rude par moment, mais on s'aime très fort, on sait qu'on ne se lâchera jamais et qu'il y aura toujours une petite place pour celui qui est sur le trottoir. et la maison ne cesse de s'emplir. Elle déborde. Ça m'a profondément touchée, ces romans. Et Sauveur, c'est un peu ça. C'est la porte ouverte, c'est la maison aux quatre vents. Il est toujours dans le rouge, hein, son banquier n'est pas content. On pousse les murs et on va trouver de la place encore et encore.
D'autant que Gabin, Jovot, c'est un peu des amis. Ça devient la famille parce qu'ils habitent là, mais c'est quand même un peu plus des colocs. Et d'ailleurs, heureusement pour certaines.
Après, effectivement, ça donne des opportunités. Hein. Gabin Alice, par exemple. Alors, Jovot, c'est un personnage qui pourrait être complètement négatif aussi, hein, puisqu'il est raciste, il est sexiste. C'est un ancien barbouze, il a fait des trucs moches, il le sait, il a tué des gens. Et puis, il est là, il est le grand-père de tout le monde. Voilà, il vogue vers le centenaire. Là, je peux pas arriver à le dégommer, quoi. Il est cet horizon de vie pour moi aussi, peut-être. Mon petit garçon, Benjamin, qui avait très peur de la mort, il avait besoin de ces très vieilles personnes. Ça le rassurait. Ça lui donnait cet horizon de vie. Puis un jour, il avait appris que cette vieille personne, à 100 ans, était morte. Et puis il m'avait dit ça. Alors, il y a un petit bébé qui est né. Voilà, le cycle.
Ça donne des idées pour la suite. Vous êtes écrivain pour la jeunesse depuis l'âge de 13 ans. Pour qui vous écriviez ?
Alors, j'écrivais pour ma petite sœur. Donc, c'était de la littérature pour la jeunesse. Je faisais du conte animalier, je faisais du polar, je faisais de la vie quotidienne, je faisais de la biographie, je variais pour intéresser ma petite sœur, qui représentait tous les lecteurs possibles, en fait. Mon frère, il m'avait dit ça. Un écrivain, c'est quelqu'un qui peut écrire de tout. J'ai cru mon grand frère.
Le 21 mars 2022, vous avez reçu le prix Andersen, la plus haute distinction en matière de littérature de jeunesse. Et le jury a salué une autrice, je cite, « engagée pour la cause des enfants et de la lecture, observatrice sérieuse du monde, et avec humour et optimisme bienveillant, ouvrant de nombreuses fenêtres sur les grands enjeux de la société contemporaine. » Est-ce que ça vous convient comme façon de vous présenter ?
Ça me rend heureuse. C'est toujours agréable d'être compris. J'aime beaucoup le mot « sérieux » tout à côté du mot « humour ». Car l'un n'exclut pas l'autre. Je prends les enfants au sérieux. Je travaille sérieusement. Je m'informe vraiment. J'essaie de ne pas raconter n'importe quoi. Puis je réfléchis sur ce que j'ai dit, ce que j'ai fait, ce que j'ai écrit. Puis petite fille d'ailleurs, j'étais ce qu'on appelle la petite élève sérieuse et appliquée. J'ai jamais renié ça en moi. Et puis ça va peut-être se télescoper avec l'humour. Je ne suis pas pour l'esprit de sérieux qui serait rabat-joie ou pisse-vinaigre, mais pour le sérieux professionnel et le fait de prendre mes lecteurs au sérieux, oui. Après, cette phrase ne tient pas compte du fait que j'écris de tout. Cette fenêtre sur la société contemporaine, hormis sur Haïti, est un roman historique. Et là, je suis en train de repartir vers un roman historique. Et j'aime le polar et j'aime le fantastique. Donc, je suis plus connue sous un certain aspect. Mais je tiens beaucoup à mes autres livres qui me font des vacances, d'ailleurs, par rapport à ce monde que j'aime beaucoup, mais qui, comme nous tous, me fatigue.
En tout cas, je pense à ces fenêtres ouvertes sur la société et je me dis que Sauveur, c'était quand même ça aussi, son cabinet, qui a l'air d'un lieu clos, vous permettait d'ouvrir 1000 fenêtres sur la société. Est-ce que d'avoir vécu tant d'années avec ce personnage, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, est-ce que vous allez pouvoir vous-même vous passer de Sauveur ?
Non, je sais que je ne retrouverai pas un poste comme le sien. Tout ce qui est névralgique vient dans ce cabinet. Tout ce qui évolue vient dans ce cabinet, c'est le point d'observation le plus important pour moi, écrivain. D'une certaine manière, c'est aussi un alter ego. Sauf que moi, je n'ai pas la prétention de soigner qui que ce soit, mais c'est mon frère d'armes.
On peut peut-être soigner un peu par les livres.
Sauvé par les livres, il y en a qui me le disent. Alors, ça me met une certaine pression, mais oui, on me le dit très couramment, hein, que Sauveur m'a sauvé, je l'ai encore entendu hier. Ma fille a répondu que, oui, étant donné l'état dans lequel est notre système médical, on a besoin de bouquins, et pas seulement les miens, on a besoin de beaucoup de livres. Il y a notamment actuellement beaucoup de bandes dessinées qui traitent de problèmes psy, que ce soit, ça va être l'autisme, ça va être la bipolarité, etc., qui sont souvent des témoignages de personnes, soit qui le vivent, soit qui le, des personnes très proches. Et ce sont des outils, de très très beaux outils pour les gens qui ont besoin de soutien, d'informations. Donc je ne suis pas la seule à travailler au sauvetage. Je pense que d'une certaine manière, la fiction apporte beaucoup. Ça permet la projection du lecteur. Bon, le témoignage est quelque chose d'important. Hein. Les gens qui viennent dire quel est leur vécu, et c'est très important aussi. Il y en a énormément sur les réseaux. Hein. La fiction permet peut-être de prendre ça moins de plein fouet. Un témoignage, ça peut être très brutal. Donc, nous, on apprivoise les souffrances avec nos personnages. Moi, j'ai l'impression que la fiction, ça parle du réel mieux que la réalité.
Ce que vous disiez à cette conférence du 13 mars à l'École des loisirs, c'est que d'une certaine manière, Sauveur vous avait aidé vous-même. Alors, je me suis dit, en entendant ça, mais du coup, Marion Murail, elle aurait créé un personnage de psychologue pour elle également. C'est même en termes de psychanalyse, c'est intéressant d'imaginer qu'on puisse créer son propre psychologue.
Son propre médicament. J'ai longtemps cru que écrire, ça allait me sauver, que écrire, ça suffisait, jusqu'à ce que je rencontre une souffrance que l'écriture n'épongeait pas. Donc j'ai bien fait le détour par la case psy. Je ne me crois pas toute puissante. Le fait d'être créateur ou créatrice, ça ne vous fait pas de vous un dieu.
Sans être tout puissant, si on peut créer des personnages qui nous aident, un petit peu.
Oui. Depuis petite, je suis accompagnée de gens qui m'aident et qui n'existent pas.
Merci beaucoup, Marion Murail. À très bientôt, sur Aile de Géant, peut-être.
Merci de m'avoir écoutée.
Aile de Géant est un podcast préparé et réalisé par l'École des Lettres. L'École des Lettres est une revue pédagogique, littéraire et culturelle publiée par l'École des Loisirs. La musique au générique est extraite de My Mingus Soul, album du saxophoniste, clarinettiste, flûtiste et arrangeur Philippe Chan. À bientôt pour un prochain épisode sur Aile de Géant.